BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Sylvain Maillard, merci d'être là. Vous avez merci pu venir, d'être là en studio, c'est important hein, aussi c'est de vrai. Montrer qu'on se déconfine. Vous êtes chef d'entreprise, on va le dire, c'est important parce que vous dites il faudrait remettre au goût du jour la TEA sociale. On s'en souvient que politiquement ça avait été un peu compliqué pour certains, mais vous dites c'est ce qui permettrait la refonte industrielle. D'abord peut-être deux, trois petites questions d'actualité politique, parce qu'il se passe des choses au niveau du groupe La République En Marche. Vous allez perdre votre majorité absolue, est-ce que c'est un drame?
On verra bien. Écoutez, ça fait des semaines et des semaines qu'on nous prédit qu'une partie de nos collègues partirait. La réalité, c'est que pour le moment, ce n'est toujours pas fait. On verra dans les semaines qui viennent. En tout cas, moi, je suis.
C'est demain, non? C'est dans les heures qui viennent, plutôt, non?
On vous dit toutes les semaines que c'est dans quelques heures. Donc, moi, je reste serein là-dessus.
Attendez, en tant que porte-parole, vous savez bien à peu près combien devrait partir, non?
Oui, on a des noms. On voit que ça change, ça fluctue. Probablement beaucoup moins. La réalité, c'est que je crois que nous avons été élus en 2017 sur un dépassement. Des gens qui venaient de la gauche, des gens qui venaient de la droite, beaucoup de gens qui venaient de la société civile, et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de totem et qu'on puisse discuter ensemble. Et donc moi, je suis un peu triste de voir qu'au fond, certains qui perdent des arbitrages, on en perd tous, hein, j'en perds, on parlera de la TVA sociale, c'est difficile aussi, on mène des combats, on en perd, mais l'essentiel c'est le mouvement que l'on prône, le changement politique, le changement économique qu'on arrive à insuffler en France.
Ça paraît un peu dépassé, non, aujourd'hui ?
Et derrière Emmanuel Macron, je crois qu'il n'y a pas d'autre alternative. Les aventures personnelles n'ont aucune chance de réussir. Regardez ce qui s'est passé dans le quinquennat précédent. Donc, je comprends que tout le monde cherche de la lumière. Ça fait partie aussi de la vie politique. C'est pas à dénigrer.
Je crois que c'est une erreur. Vous pensez que c'est un manque de lumière de certains députés?
Mais probablement, mais tous les députés cherchent de la lumière. Tous les députés cherchent à pousser leurs idées. Donc, évidemment qu'ils cherchent la lumière. Moi, je crois que c'est une erreur profonde de vouloir partir seul et de ne pas comprendre qu'en 2017, on a été élu non pas sur notre personnalité, on a été élu évidemment sur ce que nous sommes, mais avant tout sur le fait de porter une politique qui a été choisie,
oui,
c'est celle d'Emmanuel Macron.
Oui, enfin, sauf qu'on voit que la politique, là, aujourd'hui, quand on voit que quasiment l'ensemble des salariés français se trouvent sous administration de l'État, donc on se dit quand même que le macronisme, on est très loin.
Heureusement, nous sommes là. Si c'était pas nous, serait-il passé?
Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que que reste-t-il du macronisme aussi, c'est une grande question. C'est juste une question de briller dans les médias, vous pensez juste une question d'ego?
Ça joue toujours en politique, bien sûr.
Mais est-ce que c'est le fond?
Je ne comprends pas, quelques années après les frondeurs que nous avons vus au Parti Socialiste et la fin du quinquennat de François Hollande, je ne comprends pas le fait qu'on essaye de reproduire la même chose. Voilà.
Je trouve que c'est le fonctionnement trop rigide du groupe.
Je ne suis pas certain que le groupe soit un fonctionnement très rigide. Je crois que ceux qui se plaignent plutôt d'un fonctionnement peut-être parfois qui n'est pas au contraire assez rigide, la seule chose c'est qu'on perd des arbitrages, et c'est vrai. Chacun d'entre nous porte des idées et perd des arbitrages. Je crois qu'il faut accepter, parce que nous sommes un groupe et qu'on porte des idées qui ne sont pas pleinement les nôtres. C'est ainsi, c'est comme ça, ça s'appelle un mouvement politique.
Oui. Sylvain Maillard, est-ce que quand même ça veut dire que le fait de perdre sa majorité absolue, c'est embêtant pour le groupe, parce que on appuyait sur le bouton, ça y est, c'était voté.
Edwige Chevrillon, c'est jamais une bonne nouvelle, hein, très clairement.
Ça fait plus de démocratie.
Peut-être. En tout cas, la réalité, c'est qu'on a quand même une majorité absolue assez large, hein, avec le MoDem, avec nos alliés aussi d'agir. La réalité, c'est qu'on perdrait potentiellement notre majorité tout seul. C'est ça ce qui pourrait se passer. Écoutez, on verra bien ce qui est dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et puis, certains qui s'en vont disent qu'en même temps, ils veulent rester dans la majorité. Donc, c'est pour ça qu'il y a un message qui est quand même assez incompréhensible. On va voir dans les semaines qui viennent comment ils se comportent.
La bataille de Paris, on a dit un mot. Vous êtes favorable, donc vous êtes député de Paris, hein, 1, 2, 8, 9, 9e arrondissement. Est-ce que vous êtes favorable à un second tour en fin juin ou pas?
Et moi, j'ai toujours pris position. Je n'y suis pas favorable à titre personnel.
Oui.
Parce que je ne vois pas comment on peut faire campagne à l'heure actuelle, tout simplement.
On ne peut pas distribuer
de tracts, on ne peut pas serrer des mains, on ne peut pas les discuter, tout le monde est avec des masques, on ne peut pas avoir des réunions publiques, pas des réunions privées. Enfin, bref, à part faire du digital, comment peut-on faire campagne? Après, moi, je me plierai à la décision. Le comité scientifique va rendre son rapport avant le 23 mai, ou le 23 mai au plus tard, et puis ensuite, il y aura une décision politique qui sera prise.
Oui, surtout.
Mais enfin, il n'y a aucune date, il n'y a que des mauvais choix à faire, hein. Que ce soit en juin, que ce soit en septembre, que ce soit en mars 2021, il y a des avantages, des inconvénients. Il y a beaucoup d'inconvénients pour les trois dates.
On dit pour le président, l'avantage, c'est que, comme de manière, il sait qu'il va perdre ses élections municipales, notamment à Paris, du coup, autant que ça soit derrière lui pour pouvoir relancer son quinquennat.
Comme quoi, ça prouve bien que ce ne sera pas le choix d'un calcul politique, ce sera un choix sanitaire qui dira tout simplement où on peut le faire en juin.
Est-ce qu'on
peut le faire en juin ? Non, parce que pourquoi il y a une idée de le faire en juin ? D'abord, ça permet de faire qu'un seul tour et ça permet surtout de relancer tout de suite des exécutifs qui peuvent relancer l'investissement public au niveau des municipalités. Donc ça s'entend. Est-ce qu'on peut le faire en septembre, en octobre ? On sera peut-être un peu après le Covid, en tout cas plus habitué à vivre avec, mais on doit refaire deux tours. Et donc, on repère 2 mois, 3 mois. Si le Covid est aussi fort, est-ce qu'on pourra vraiment avoir des élections ? Ouais. Et puis, si on va jusqu'en mars de 2021, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, pendant un an, on aura des exécutifs qui ne seront plus vraiment élus, peut-être un peu moins motivés, plus d'investissement public.
D'accord,
donc il n'y a que des mauvais choix à faire. En réalité, on doit choisir tous entre des mauvaises solutions.
Vous avez retrouvé Agnès Buzyn ou pas ?
Agnès Buzyn, vous savez, elle a décidé d'être utile à son pays, qu'elle a toujours fait. Et donc, elle est médecin à Percy. Elle travaille jour et nuit pour aider des patients atteints du Covid. Et c'est tout à son honneur. Et le jour où nous relancerons la campagne, elle reprendra ses habits de candidate.
Ça va être compliqué, hein, quand même. Juste un mot encore pour la parisienne que je suis. La rue de Rivoli complètement fermée aux voitures. Vous trouvez que c'est une bonne idée parce que vous êtes concerné, un, deux.
C'est un choix d'Anne Hidalgo.
Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez ?
Est-ce qu'elle nous dit que c'est de l'aménagement tactique ? On va voir. C'est-à-dire, est-ce que ça va durer quelques semaines ou bien c'est un prolongement plus profond ? Écoutez, c'est à elle de se prononcer.
Non, mais vous en pensez quoi ?
À court terme.
Sylvain Maillard, vous en pensez quoi ?
À court terme, je pense que c'est intéressant de pouvoir faire en sorte de développer le vélo pour une alternative au métro. On voit très bien que chacun d'entre nous a peur de retourner dans le métro, qu'il faut qu'il y ait le moins de monde possible. Donc, dans les 2-3 semaines à venir, probablement, c'est une bonne solution. Moi, je ne suis pas favorable à moyen et à long terme.
D'accord, voilà. Moi, ça mérite d'être clair.
Alors, mais à court terme, je le redis, à court terme, je trouve que c'est une solution intéressante.
Sylvain Maillard, donc, vous êtes chef d'entreprise. La TVA sociale, c'est ce que vous prenez. Alors, visiblement, vous avez perdu l'arbitrage, puisque vous dites tout le monde perd des arbitrages. La TVA sociale, qu'est-ce qui vous intéressait dans la TVA sociale ? Ça fait un impôt de plus, j'ai envie de dire.
Alors, moi, je parle en mon nom personnel.
Oui, on a
c'est pour ça. En tant que porte-parole, mais en mon nom personnel.
C'est pour ça que j'ai chef d'entreprise.
La TVA sociale, c'est un. Qu'est-ce qu'on veut faire d'abord ? C'est pas de faire un impôt supplémentaire, c'est dire on veut réindustrialiser la France et retrouver une souveraineté. On en parle partout, on en parle tous et c'est très bien. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre pourquoi les industries sont parties il y a quelques années. Même si depuis 2017, on a fait vraiment du travail, on a recréé de l'emploi industriel en France qui ne s'était pas fait depuis 15 ans. Donc on est sur une dynamique, mais qu'il faut accélérer. Et donc, se dire qu'il y a des points qu'il faut absolument gommer, sinon ça ne marchera pas. Je vous prends des exemples. On va arriver à la TVA sociale, mais il y a d'autres choses.
Ouais.
On a une culture en France, dans les achats par exemple, où on a plutôt tendance à acheter, quand on est industriel, on est un acheteur, plutôt tendance à acheter non pas à l'entreprise qui est juste à côté de chez soi, mais d'acheter plutôt à l'entreprise un peu plus loin, parce que ça valorise plus votre carrière. Acheteur international, vous progressez plus quand vous êtes dans un grand groupe. C'est la réalité. Mais les Allemands font l'inverse de nous. Au contraire, on achète à côté. L'industrie Seveso. Alors, vous savez, énorme Seveso, donc on en a beaucoup parlé après l'accident à Rouen. On parle beaucoup de la pharmacie, de la chimie. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut retrouver une souveraineté, il faut qu'on accepte des usines aussi à risque. Et donc, tout le monde va avoir des usines. Tout le monde va avoir la souveraineté.
À risque, oui.
Mais le risque, est-ce qu'on est prêt à accepter le risque ?
Au sein d'une ville, enfin d'une agglomération.
Mais au sein d'un pays même. Au sein d'un pays. Et tout ça revient à se poser les vraies questions. Est-ce qu'on est prêt à avoir une souveraineté industrielle ? C'est des questions. Et à côté de ça, pourquoi elles sont parties au fond aussi, surtout ? Parce que les coûts de production sont trop importants en France.
Ouais.
Les coûts de production sont trop importants. Et donc ça, nous n'avons pas réglé. Nous l'avons amélioré, mais nous ne l'avons pas réglé. Et donc, moi, je dis une seule chose. Il faut faire payer notre modèle social. On le voit, il faut mieux payer les infirmières, il faut mieux payer le personnel hospitalier. Ouais. Il faut le faire payer par nos importations. Parce que la réalité, c'est que les importations, elles ne payent pas la protection sociale, protection sociale.
Augmenter la TVA,
et donc,
vous voyez.
Ça veut dire quoi ? Augmenter la TVA, ça ne t'a que des vertus. Pourquoi ? On augmente par exemple de 2 points.
Ça dépend pour qui ?
2 points.
Pour nous, ça va. Le problème, c'est pour les gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois.
Exactement. Donc, comment on fait ? On dit, on augmente par exemple de 2 points. 2 points, ça fait 15 milliards par an supplémentaires. On baisse les charges patronales. pour nous baisser le coût en France, d'accord, charge patronale. À côté de ça, ça nous permet de redonner de l'oxygène pour augmenter les salaires. Les salaires en France ne sont pas assez élevés. Je le redis, les salaires en France ne sont pas assez élevés.
Mais autant baisser les impôts.
On le voit par rapport aux salaires allemands, par exemple. Oui. Ça nous permet de retrouver de la marge de manœuvre et aussi probablement de faire des plans financés pour financer notre modèle social. Ça nous permet aussi probablement d'aider les plus démunis d'entre nous pour qu'ils puissent compenser. Et puis la réalité, c'est que si on augmente de 2% la TVA sociale sur les produits importés, vous savez quoi ? Les importateurs, ils réduiront leur marge. La réalité, c'est que les prix n'augmenteront pas, il n'y aura pas d'inflation. Donc moi, je fais ce pari qu'on peut récupérer peut-être entre 10 et 15 milliards par an qui nous permettent de baisser nos coûts de production, rendre notre industrie plus profitable et donc on réindustrialise la France, on retrouve une souveraineté. Si on ne baisse pas nos coûts de production, nous n'y arriverons pas.
Baisser les coûts de production, les impôts de production, ça. Tiens, les impôts de production, vous qui êtes dans la politique et en mettant l'entreprise, parce qu'on voit bien, tout le monde appelle ici, beaucoup de nombreuses entreprises à baisser les impôts de production, puis vous avez les maires qui disent, ben non, on en a besoin. Vous en pensez quoi, vous,
de
côté de la,
de la barrière? Je pense que là-dessus, ils ont tout à fait raison. Il y a une discussion à faire. On ne pourra pas baisser tous les impôts de production. Mais les coûts patronaux de l'assurance maladie, de faire en sorte que, en tout cas, une partie de ce qui est sur la charge... La réalité, c'est que vous produisez en France, vous payez des droits de douane, en fait, pour produire en France. C'est ça, la réalité. Les droits de douane pour mettre votre produit. C'est-à-dire que vous partez avec un boulet au pied par rapport à des importations. Est-ce que nous sommes prêts à continuer à accepter ça? Moi, je pense que non. Et donc, cette TVA sociale nous permet de faire en sorte que les importations payent notre modèle social auquel nous sommes tant attachés. À un moment, il faut trouver de l'argent quelque part. Pourquoi ne pas taxer ceux qui ne payent rien? Ceux qui payent rien sont les importateurs.
Une petite question, il nous reste 30 secondes. Le monde d'après, selon Sylvain Maillard?
Transformer la contrainte en opportunité. Moi, je crois pas du tout au monde, pas du tout au monde nouveau où d'un seul coup tout serait changé. Je n'y crois pas. Je pense qu'on a vu qu'on a des vraies forces et des vraies faiblesses. Les vraies faiblesses, il va falloir travailler dessus. Et les vraies forces, il va falloir encore plus les accélérer. Je crois que ça va être extrêmement difficile. Les mois qui viennent vont être des mois de fort chômage, de baisse de la production. Il faut qu'on mette tous les moyens et probablement un grand plan de relance à la rentrée.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sylvain Maillard. Donc, on a compris, vous avez des bons arguments. Député, première circonscription et porte-parole du groupe La République En Marche. Dans un instant, c'est Jean-Noël Tron, le patron de la SACEM, qui sera votre invité. Vous écoutez la musique française?
Bien sûr.
Et ben justement, il dit qu'on en a besoin parce que la musique française, c'est noir, c'est son noir, elle broie du noir. Il faut un plan Marshall, du moins, c'est ce qu'il nous dit et ce qu'il va nous dire. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Jean-Noël Tron, directeur général de la SACEM. Bonjour Jean-Noël Tron.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous montez au créneau pour expliquer que c'est une catastrophe pour l'industrie culturelle française et notamment pour la musique. Vous dites même qu'il faut un plan Marshall. Alors, c'est pas une expression qu'on peut galvauder par les temps qui courent, il faut reconnaître. Mais vous dites la musique broie du noir. Et en même temps, on a l'impression que quand on était confiné, tout le monde a écouté de la musique, a enregistré de la musique. Donc, là, il y a un vrai problème de musique, là, aujourd'hui.
Il y a plus que ça. Il y a une catastrophe culturelle qui est en train de se préparer parce que pendant qu'on était...
Culturelle, oui, mais j'étais sur la musique.
Oui, mais justement, la musique, elle est au cœur des pratiques culturelles des Français. Vous l'avez dit vous-même, c'est la première des pratiques culturelles des Français. Et donc, on a cette fausse idée que parce qu'on était tous confinés et tous à écouter de la musique, ça allait aller mieux pour les gens qui la fabriquent. Mais en fait, c'est le contraire. Parce qu'aujourd'hui, un auteur ou un compositeur de musique, juste pour qu'on comprenne, à peu près un tiers de ses revenus viennent des gens qui diffusent la musique dans leur magasin ou dans leur festival. Tout a été fermé, tout est annulé, les festivals ne reprennent pas avant un an. Donc c'est à peu près 60% de perte de revenus pour les droits des auteurs et des compositeurs de la musique et leurs partenaires que sont les éditeurs, rien que pour la partie musique diffusée dans les festivals. Chez les commerçants, c'est à peu près moins 50%. Tout ça ne va pas se rattraper. Et donc la musique qu'on a écoutée, par exemple, sur les radios ou sur les chaînes de télévision, sont aussi des médias dont les recettes publicitaires vont baisser. Donc la rémunération des auteurs va baisser.
Je peux vous confirmer aussi, oui.
Donc la rémunération va baisser. C'est pour ça qu'on a lancé le mouvement hashtag scène française pour encourager les médias à diffuser plus de productions françaises, un peu plus de Made in France. Un média, il paye un pourcentage de son chiffre d'affaires. ils ne payent pas en fonction du nombre de titres qui passent. Donc s'ils passent 100% de titres anglo-saxons, nous, on va collecter les droits et puis on va les envoyer vers des grandes sociétés américaines ou anglaises. Si un média passe un peu plus de production française, indépendamment de la langue, hein, si c'est de l'électro, ça peut être des groupes français qui chantent en anglais, ça va faire plus de rémunération, un petit peu moins de pertes. Dernier point, c'est la double lame. La culture, c'est la première de toutes les industries françaises, parce que c'est aussi une industrie qui est rentrée dans la crise. Fin février, les premières annulations. Ça va être la dernière à en sortir. Mm-hmm. Pas de reprise de théâtre, de cinéma, de tournage, de salle de spectacle avant des mois. Pour les auteurs, c'est la double lame. Comme les droits d'auteur sont payés toujours avec un peu de décalage par rapport à la diffusion, c'est en 2021, à partir de janvier, que les droits d'auteur vont s'effondrer. Et la vraie question qui se pose, c'est quoi le coût total pour l'économie française de la culture? Et on commence à avoir des réponses.
Oui, surtout c'est qu'on sait qu'il y a cette fameuse étude d'EY, hein, qui a... Je m'en souviens, vous étiez venu nous voir, c'était il y a 2-3 ans, qui a vraiment montré que l'industrie culturelle en France était un business aussi important que le tourisme. On a toujours l'impression que c'est des saltimbanques, etc. Mais c'était vraiment une vraie industrie culturelle. Et là, vous dites, les chiffres, vous avez chiffré en disant, c'était quoi à peu près? Il y a 10 milliards d'euros qui ont été...
EY a fait le chiffrage juste pour les deux mois de fermeture totale. Hein. C'est une dizaine de milliards d'euros de pertes.
Et mais ça, on n'est pas au niveau français.
Au niveau français. Et d'ici la fin de l'année, une vingtaine de milliards d'euros de plus qui ferait 30 milliards d'euros de pertes, c'est-à-dire à peu près 30% de la valeur créée par l'économie de la culture en France. Au niveau européen, pour prendre un chiffre, le Parlement a demandé 2000 milliards d'euros de plan de relance pour l'Europe. Si la perte également chiffrée par le ministère d'économie allemand pour la culture, qui rejoint un peu les chiffres d'EY pour la France, on l'extrapole, c'est 150 milliards d'euros de destruction de valeur pour un secteur qui pèse en Europe, hein, la culture. 7 fois les emplois des télécoms, 2,5 fois les emplois de l'automobile. Donc, quand je parle de plan Marshall, je parle de plan Marshall parce qu'on n'a pas un problème de relance là. On a un problème de reconstruction. Une partie de la chaîne créative va être détruite, c'est ce qui est en train de se faire. Les mesures qui ont été annoncées il y a une dizaine de jours par le chef de l'État sont des mesures d'urgence pour tout de suite. Elles étaient bienvenues. Hein,
mais... Elles étaient bienvenues, mais en même temps, elles sont un peu décalées par rapport à ce que vous dites, dans le sens où c'était...
En termes de montant, c'est une goutte d'eau. C'était mettre 50 millions d'euros dans le tout nouveau Centre National de la Musique qui avait été vidé de ses maigres moyens pour aider là, les premières mesures d'urgence. C'était bien. Et compenser la perte pour les intermittents qui ne vont pas pouvoir travailler, c'est bien. Oui. Mais les auteurs, ils ne sont pas intermittents, ils ne sont pas salariés. Hein. Donc... eux, la perte, elle est totale, elle n'est pas compensée. Donc, quand on parle de plan Marshall, c'est surtout pour dire reconstruction de ce qui est un des actifs clés de la France. C'est des emplois où les gens sont souvent plus jeunes que dans la moyenne de la population active française et plus fragiles. C'est des emplois non délocalisables. C'est l'attractivité de nos territoires, c'est le rayonnement de la France. Et donc, c'est ça qu'il s'agit quand même de se battre pour reconstruire.
Et c'est d'autant plus dommage que, juste avant la crise, justement, l'industrie musicale française se portait très bien et s'exportait très bien. Donc,
c'est une chose qui m'a frappé. Hein, la SACEM est une société internationale.
Une vieille dame, mais c'est le premier financeur de la musique en France.
Premier financeur privé,
oui.
Puisque nous sommes une société privée à but non lucratif. Mais on a 160 nationalités à la SACEM. On est la première société francophone. Ce qui me frappe, c'est de voir que le répertoire français... Et le répertoire de la SACEM, c'est le deuxième du monde après l'anglo-saxon. Donc, il y a vraiment, passez-moi l'expression, il y a un coup à jouer en termes de rayonnement de notre pays. Et c'est ça qu'il s'agit de préserver. On est plus sur une stratégie, d'ailleurs, de redressement à 3 à 5 ans, je pense, que simplement sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines.
Oui. Moi, c'est simplement sur les montants. 10 milliards en 2 mois, qu'est-ce que vous mettez à ce moment-là? Je ne vois pas où vous les trouvez, ces 10 milliards.
Alors d'abord, le chiffrage est fait par EY, donc c'est un cabinet qui engage sa crédibilité comme il l'a fait.
Non, mais en plus, EY, c'est très sérieux. Je dis juste, parce que la musique, c'est très important, mais enfin, on n'est pas en 2 mois sur 10 milliards.
Je parle de l'ensemble de l'économie de la culture.
Ouais.
Le chiffrage EY, il est pour les industries culturelles et créatives françaises, c'est-à-dire l'économie de la culture. Toute la billetterie qui a disparu, que ce soit pour le spectacle vivant ou les musées, toutes les ventes des libraires qui se sont arrêtées, la totalité des droits d'auteur que payent les commerçants, évidemment la SACEM qui est solidaire avec les commerçants, a suspendu tout paiement pendant les périodes de fermeture. Pas de diffusion de musique, pas de paiement de droits d'auteur. C'est pas de l'argent qui sera récupéré. Donc en fait, ce qui est frappant, c'est que ces 10 milliards d'euros, qui sont raccord avec les chiffres allemands hein, en proportion, ils sont exactement le reflet de ce que tous mes partenaires de France Créative me disent. Les gens du cinéma, les gens de la musique, les gens du livre, les gens des médias, tous le disent. L'effondrement total des revenus pendant ces 2 mois... Ça aboutit à peu près à ce chiffrage-là, en effet.
Et qu'est-ce que vous préconisez comme type d'aide Je reçois aussi dans leur âge Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI, donc vous pourriez lui demander aussi, puisque c'est lui qui tient un peu les cordons de la bourse. Mais comment pourrait-on, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on fasse. D'abord, les premières mesures qui ont été annoncées, par exemple pour l'intermittence, sont très bienvenues. Un certain nombre de mesures transverses ont également été utiles. Les prêts pour les entreprises et toutes les formes de garanties qui ont pu être apportées sont indispensables. Nous, on est une société privée. On a lancé un plan d'économie massif pour essayer de limiter un peu l'impact de pertes pour nos membres. Sachant qu'en plus, la SACEM...
Donc ça veut dire quoi ? 1300 salariés, ça veut dire...
La SACEM finance son fonctionnement sur les droits qu'elle prélève, qu'elle va verser à ses membres. Ouais. Donc, effondrement des droits, effondrement du financement, on va avoir un déficit de notre compte d'exploitation d'à peu près un quart. Donc, on a mis en place un plan de chômage partiel massif qui touche plus de la moitié de nos salariés. On arrête une partie de nos investissements. On ne renouvellera pas des CDD. On arrête toute forme de recrutement. Tout le monde s'y met. Mais simplement, c'est évidemment pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour compenser les pertes. Donc, il y a la question de la compensation directe des pertes. Vous avez des professions. Je prends l'exemple des éditeurs de musique qui sont moins connus que les producteurs de disques ou que les producteurs de spectacles. Producteurs de disques et spectacles ont obtenu des crédits d'impôt depuis quelques années. On sait que c'est très vertueux. Le crédit d'impôt, ça va à l'investissement. Bon, les éditeurs de musique, il est temps qu'ils aient aussi accès au crédit d'impôt. Les auteurs-compositeurs, il va falloir une compensation directe. Ils ne sont pas intermittents, ils ne sont pas salariés. Donc les dispositifs qui ont été annoncés ne les concernent pas. Accessoirement...
Mais ça veut dire que vous ne faites pas assez de lobbying, Jean-Noël Tron?
D'abord,
parce que c'est comme ça que ça marche.
D'abord, je dirige une société d'auteurs et croyez-moi...
Non, mais comment vous expliquez ça?
C'est un travail à plein temps. Ensuite, vous avez un mouvement qui s'appelle Tous pour la musique, qui a marqué des points. Je pense que le président de la République, parlant pour la première fois du Centre National de la Musique et annonçant 50 millions d'euros...
Mais c'est un peu décalé, là, aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Centre National de la Musique,
vous savez,
là, quand il y a une perte de 10 milliards, j'en crois les chiffres que vous avez donnés...
La musique, par rapport à d'autres industries culturelles, comme le cinéma ou le livre, elle s'y met seulement depuis quelques années à s'organiser. Donc, elle marque des points modestes, elle s'inspire des autres secteurs. Et donc, on va continuer à se battre. Il y aura, je pense, au moment de la fête de la musique, là, en juin, un vrai débat, parce que c'est fête de la musique pour tous les amateurs, FAITES, hein, j'en suis, moi, un amateur.
Oui, mais
moi aussi. Pour les professionnels, ça va plutôt être la non-fête de la musique, voire la défaite de la musique, s'il n'y a pas des mesures de relance beaucoup plus importante encore que ce qui a pu être annoncé jusqu'à maintenant, et qu'on prend en compte
et donc,
des cas
crédit
particuliers
d'impôt,
comme celui
donc,
des auteurs
crédit d'impôt,
ou des
mais encore faut-il faire des bénéfices. Hein. Autre accès au PGE, enfin aux différents fonds qui existent.
Alors ça, c'est des dispositifs qui existent aujourd'hui.
Oui.
Mais pour revenir un instant sur ce que les
uns et les autres font, compositeurs.
Nous, on a mis en place, en mobilisant tout ce qu'on pouvait avoir comme ressources en trésorerie, un plan de mesures d'urgence extrêmement important, hein, 43 millions d'euros. Des avances qu'on a repoussées sur 5 ans pour le remboursement avec une période blanche pour nos membres. Des avances qui peuvent compter jusqu'à 10% de leurs revenus précédents. On a mis en place 6 millions de mesures d'urgence qui peuvent aller de 350 à 5 000 euros. On a 2 000 dossiers qui ont été déposés. Donc, on s'occupe des nôtres avec l'argent des droits d'auteur, mais ce n'est pas ça qui va permettre de compenser l'ampleur de la perte de revenus. On parle de gens, pour des gens par exemple dont la musique est surtout diffusée dans des lieux, dans des festivals ou des salles de spectacle, qui vont perdre peut-être 60-70% de leurs revenus l'an prochain. Donc la question de la compensation des pertes, comme ça se fait pour plein d'autres professions, elle va se poser pour nos membres, mais plutôt en 2021. Elle va se poser pour les réalisateurs, elle va se poser pour les auteurs de l'écrit. Hein. C'est toute une population aujourd'hui qui est en danger, c'est eux qui sont à l'origine de la création française.
Hier, j'écoutais Vianney, justement, un peu le retour. En fait, il vous manque peut-être des porte-paroles, non? Il faut mobiliser... vos auteurs-compositeurs, non?
Oui, alors c'est
Jean-Noël Tron en tant que patron de la SACEM.
C'est l'idée.
Je
parle
de les voir un peu comme on a vu des acteurs qui ont fait aussi des clips, des choses comme ça.
Oui, non, je vous avais tout à fait raison. C'est l'idée du hashtag scène française qu'on a lancé.
Oui.
Moi, l'idée m'était venue en passant chez un de vos confrères qui me disait « Bon, bah, c'est chouette, tout va bien pour les auteurs, il y a plein de musique sur les radios. » Et je lui expliquais que non, parce que les radios perdent des recettes publicitaires et donc les auteurs vont perdre des revenus. Hashtag scène française, c'est ça l'idée, c'est que tous les artistes, et beaucoup ont commencé à le faire, hein, reprennent sur leurs réseaux sociaux ce signe de ralliement dans lequel chacun peut un peu contribuer à faire quelque chose pour la création de notre pays.
Il faudrait faire hashtag noir c'est noir. Le monde d'après ?
Il va être très noir s'il n'y a pas un plan Marshall pour les industries culturelles françaises à l'automne, dans le cadre du plan de relance général que prépare le gouvernement.
Merci beaucoup. Bah, tiens, lui, il est en charge, justement, il tient les cordons de la bourse, on lui posera la question. Vous pourrez lui poser la question, vous allez le croiser à plus d'un mètre, évidemment. C'est Nicolas Dufourcq, le patron de BPI, qui est notre invité. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Ils viennent s'installer en studio. Nicolas Dufault, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous avez un rôle très important dans comment éviter le pire, un peu. Vous êtes directeur général de BPI France. Vous nous direz un peu le nombre d'entreprises qui ont fait appel à ce fameux PGE. On parlera de dossiers comme Conforama, Nafnaf, etc. Et puis surtout, il y a le plan touristique très important qui a été présenté en fin de semaine dernière avec comme pivot BPI France. Mais pour l'instant, on place à l'info avec Claire Tchekiaglini.
Bonjour Edwige. Une initiative franco-allemande pour le redressement économique de l'Europe. Elle sera dévoilée à 17h par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Ils s'entretiendront cet après-midi par visioconférence. Le plan concernera la souveraineté industrielle, la santé, la transition écologique et le numérique. Par ailleurs, le 27 mai, c'est la Commission européenne qui exposera à Bruxelles des mesures pour un montant de 1 000 milliards d'euros pour sortir l'UE de la récession. Quant au ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, ils se sont réunis ce matin à Berlin au programme La réouverture progressive des frontières. L'appel au secours des salariés de Conforama. Ce matin, la CFE-CGC a demandé au gouvernement d'intervenir de toute urgence auprès de la BNP. L'enseigne d'ameublement ne parvient pas à obtenir un prêt garanti par l'État. Pour surmonter la crise, l'entreprise a besoin de plus de 320 millions d'euros de toute urgence. Conforama emploie 8 600 salariés en France et vous allez revenir sur ce dossier, Edwige, dans un instant avec votre invité. Bruno Le Maire s'attend à une décrue du chômage partiel dans les semaines à venir. Le ministre de l'économie s'appuie notamment sur les chiffres des chantiers. 45% d'entre eux étaient à l'arrêt début mai. Ils ne sont plus que 28% aujourd'hui. Le dispositif d'urgence de chômage partiel sera revu d'ici le 1er juin en vue d'augmenter le reste à charge pour les entreprises. Le conseil scientifique remettra dans la journée son rapport à Édouard Philippe sur la tenue du second tour des élections municipales. Il doit se prononcer sur une organisation en juin ou bien à l'automne. Des annonces en demi-teinte pour Ryanair. La compagnie aérienne low cost a enregistré une hausse annuelle de 13% de son bénéfice, mais son objectif pour 2020 a été abaissé de 20% supplémentaire compte tenu de l'épidémie du coronavirus. La plupart des grandes places boursières asiatiques ont terminé dans le vert aujourd'hui. Elles ont ainsi saluer la poursuite des déconfinements et l'augmentation du prix du pétrole. Mais les nouvelles tensions entre Huawei et Washington les a freinés dans leur élan. Ce matin, le géant chinois des télécoms a dénoncé les récentes sanctions américaines. Pour Huawei, il s'agit de mesures pernicieuse et arbitraire. Washington a interdit à la firme chinoise l'accès au savoir-faire américain pour ses semi-conducteurs. Huawei estime que la décision de l'administration Trump aura des conséquences sur un grand nombre d'industries dans le monde. Panasonic plonge en raison du Covid-19. Le groupe japonais d'électronique a enregistré un recul de son bénéfice net de presque de 21%. Panasonic a dû faire face à des ruptures d'approvisionnement en Chine, mais également dans d'autres pays asiatiques. Le groupe se refuse à toute annonce de prévision compte tenu de la pandémie pour 2020. Vous êtes sur BFM Business et c'est la suite de l'orage avec Edwige Chevrillon.
Merci Claire, tout de suite. Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France.
Ce soir, sur BFM Business, Erwan Morris reçoit les acteurs clés de la transformation environnementale. Ils nous dévoilent leurs initiatives pour un business plus vert. Green Reflex, ce soir à 22h50 sur BFM Business.
Green Reflex vous est proposé par BNP Paribas, la banque qui vous accompagne dans la transition énergétique.
Ce soir à 21h05 sur RMC Découverte, montez à bord de navires de combat, de bateaux-pompes, de bateaux de croisière et d'autres machines ultra-puissantes qui assurent le commerce et la sécurité à travers le monde. Aquamachine, c'est ce soir dès 21h05 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction. Canal 24.
Société Générale, mobilisée pour vous.
Artisans, commerçants, professions libérales, TPE, Société Générale vous aide à surmonter cette crise avec des mesures exceptionnelles. Suspension automatique des échéances de crédit jusqu'à 6 mois. Solution de financement à court terme. Mise à disposition du prêt garanti par l'État. Pour vous aider à choisir la solution la plus adaptée, votre conseiller pro est mobilisé. À distance ou en agence, il répondra à vos demandes de prêt sous 5 jours.
Nous sommes à vos côtés pour vous permettre de continuer à avancer. C'est vous l'avenir, Société Générale.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est un personnage clé aujourd'hui dans cette crise et les conséquences que ça a évidemment sur les entreprises. Nicolas Dufour, directeur général de BPI France, merci d'être avec nous ici en studio. Nicolas Dufour, bonjour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers. On va parler du plan tourisme parce que c'est très important. Vous êtes là, vous êtes un peu le pivot. Vous allez nous dire comment est-ce que vous voyez son déploiement. Mais il y a quand même beaucoup de dossiers qui commencent à être sur la table. On voit qu'il y a des faillites, hein, malgré ce qu'avait dit le président de la République. Il y a des faillites, il y a des redressements judiciaires. Conforama, Naf-Naf, Alinéa, il y a quand même quelques dossiers chauds. Conforama, justement, selon nos informations, ce serait BNP Paribas, donc il refuserait un prêt. Ils disent qu'ils ne sont pas accessibles au pays. Ils n'arrivent pas à avoir le PGE. C'est vous qui gérez le PGE, plan garanti par l'État. Vous savez ce qui se passe ?
Alors, j'aime bien être précis dans mes réponses, donc la réponse est non, je ne sais pas ce qui se passe sur Conforama, parce que les gros PGE, pour les entreprises qui sont sur des chiffres d'affaires supérieurs à 1,5 milliard, sont instruits en direct par les services de Bercy, ne passent pas par BPI France. Hein, voilà. Donc ça se traite en ce moment à la direction du Trésor. Je ne peux absolument rien dire sur Conforama.
Est-ce que ça veut dire que, les banques elles font obstacle sur les PGE ou pas? Est-ce que sur des dossiers qui sont un peu critiques, hein, parce que la situation est difficile de Conforama. Est-ce que vous avez, alors pour des dossiers qui vous concernent vous BPI, est-ce que c'est les banques elles bloquent?
Alors aujourd'hui on a à ce matin 74 milliards d'euros de PGE accordés. Une demande qui va avoisiner les 100 milliards maintenant, hein, et un taux de refus qui, d'après la Fédération bancaire française, est compris entre 3 et 5%. Et pour une profession très particulière qui sont les restaurants, qui a été le souci principal de la semaine dernière, un taux de refus compris entre 5 et 7%. Voilà. Et donc, il y a des refus. Et c'est sûr que 5 à 7% ou même 3 à 5% sur 434 000 entreprises ce matin, ça fait des milliers d'entreprises, bien entendu. Mais le ratio est, je pense, relativement faible. Voilà. Alors, vous avez beaucoup d'entreprises qui demandent 3 mois de chiffre d'affaires en PGE et qui n'obtiennent qu'un mois ou deux mois. Hein, qui ne sont pas servis en totalité de leurs demandes. Ça, c'est une autre question.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi les entreprises, enfin, c'est plus difficile pour les entreprises qui étaient déjà fragiles, on va dire, d'obtenir des PGE. Donc finalement, que les PGE, ça va aux entreprises qui se portaient bien et puis là, qui évidemment voient leur activité brutalement arrêtée.
Alors, on a fait très attention à ce que des entreprises qui ont des fonds propres négatifs ou qui ont eu une baisse de 50% de leurs fonds propres dans les 12 derniers mois puissent bénéficier du PGE. Au début, c'était pas le cas. Il a fallu renotifier à Bruxelles, obtenir une autorisation. Ça fait maintenant partie du cadre général. Donc, des entreprises qui ont des fonds propres négatifs peuvent recevoir le PGE. Maintenant, vous avez des entreprises, en effet, qui sont sur des modèles d'affaires qui étaient déjà des modèles fragiles, on va dire. C'est-à-dire des modèles qui produisaient des résultats opérationnels à un très faible pourcentage. Voilà, donc ces entreprises sont atteintes de plein fouet. Quand elles ont d'abord une très grande taille et qu'elles ont plusieurs banques dans le cadre de ce qu'on appelle des pools, il faut que toutes les banques se mettent d'accord. C'est ça qui prend du temps. Alors il y a quantité d'entreprises.
Et ça, on ne peut pas changer, avoir le chef de file simplement qui donne son accord, non?
C'est-à-dire que les banques sont bien obligées de faire passer les prises de risque qu'elles prennent dans leur comité de crédit. Voilà. Donc, alors ça ne veut pas dire que les PGE de poule ne se sont pas faits. Il y a eu quantité de PGE de poule qui se sont faits. Au cas particulier de la marque que vous citez, que tout le monde aime beaucoup, comme Alinéa d'ailleurs. Enfin, c'est triste pour tout le monde de voir que ces marques souffrent, ou Naf-Naf. Il y a des sujets de coordination entre les banques incontestablement.
Oui, donc il y a un vrai sujet. Quoi. C'est ça que vous dites. Et vous ne pouvez pas les reprendre, vous ?
Non, parce que le cadre général du PGE est très simple. Le PGE n'est pas destiné à permettre aux banques de gagner de la part de marché sur leurs voisines. Donc chacun s'occupe de ses clients. Conforama n'est pas un client de BPI France. BPI France commercialise le PGE en direct auprès de ses propres clients.
Oui, d'accord, ok. Mais il y a un sujet, donc comment on pourrait le résoudre ?
Le sujet, c'est encore une fois les coûts de coordination, on va dire, entre plusieurs banques quand elles se partagent le risque sur une entreprise.
Mais vous connaissez mieux que moi, hein, vous avez les ping-pong, alors je te renvoie la balle et machin, et puis pendant ce temps-là, la boîte, elle a le temps de crever.
Et donc, dans un cas comme celui que vous avez cité, c'est le CIRI, à la direction du Trésor, qui est en charge.
Ouais. Est-ce que vous voyez remonter Naf-Naf, Alinéa, est-ce que on voit qu'il y a des plans sociaux, il y a des faillites qui se préparent, en fait, je recevais Geoffroy Houde-Bézieux, le président du MEDEF, il ne peut pas tenir des propos trop alarmistes, enfin on voit bien que la situation c'est devant nous, même le président Macron l'a reconnu, hein.
Oui,
Qu'est-ce que vous voyez, vous remontez concrètement?
Alors, écoutez, je vais vous donner quelques indications. On a, vous savez, un portefeuille de PME de 600 entreprises dans lesquelles nous sommes actionnaires.
Ouais.
Bon, chaque année, à cette époque, nous procédons à la réévaluation de ces actifs. On aurait pu se dire que ce serait un massacre et qu'on allait réévaluer à moins 50%. En fait, pas du tout. Hein, on réévalue à moins 12, moins 13, parfois moins 14%, mais pas tellement plus. Elles se sont bien défendues, elles sont liquides en trésorerie, elles ont pour l'essentiel obtenu leur PGE, elles tiennent l'été sans problème, elles vont pouvoir attaquer l'automne. Bon. C'est une indication parmi d'autres. Bon, maintenant, le nombre des faillites, tel qu'il est comptabilisé régulièrement, n'est pas en train d'exploser sous nos yeux. Toute la question, c'est la question du mois de septembre et de la rentrée d'octobre. Et j'ai envie de dire que tout va dépendre de l'extraordinaire énergie vitale globale de la société française et de l'économie française entre maintenant et septembre. C'est-à-dire que si on s'y met tous pour relancer, il n'est pas exclu que ça se passe mieux qu'on ne pense. Si en revanche on s'inscrit dans un contexte morose, un peu morbide même, de crise anticipée comme durable, ça sera autoréalisateur. Incontestablement.
Mais pour l'instant, vous n'avez pas une pile de haute comme ça sur votre dossier de où il y a écrit faillite, non ?
Non.
Ou plan licenciement, pour l'instant, non.
Non, aujourd'hui sur.
Bah non, mais c'est important de le dire parce que vous.
C'est pour ça que j'aime être précis. Ouais, aujourd'hui sur mon bureau, j'ai un dossier, un gros dossier, mais un dossier.
D'accord. Non, mais c'est voilà, c'est important. Alors maintenant, juste encore une question. PGE, vous avez dit 74 milliards. J'ai retrouvé le dernier chiffre que vous avez donné, c'était le 20 avril, c'était 40 milliards.
Oui, ça monte très vite.
Ça monte très vite, hein, 40 ouais. milliards, 74 milliards. Donc,
pratiquement d'un milliard par jour.
Ouais.
Oui. Et pour la profession des hôteliers, cafés, restaurants, ça monte pratiquement d'un milliard par semaine.
Ouais, donc ça c'est énorme. Alors justement, ce plan touriste qui a été proposé, qui a été assez bien articulé entre la Banque des Territoires, vous,
oui.
les différentes fédérations,
oui.
comment est-ce que justement, où est-ce que vous vous situez, vous qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous prêtez,
oui.
et comment vous recapitalisez, parce que c'est un peu toutes les étapes.
C'est ça. Écoutez, il y a deux catégories de clients dans le tourisme. Il y a les entrepreneurs, ça c'est BPI France, donc vous venez nous voir, vous allez voir votre agence BPI France, on en a 52, c'est extrêmement simple, guichet unique. Si en revanche, il s'agit de financer des infrastructures, des foncières, des murs, ou d'accompagner des collectivités locales, ou des sociétés économie mixte, Banque des Territoires. Voilà. Donc il y a une banque publique du tourisme, elle a deux moitiés, c'est comme un fruit. Une moitié jaune, c'est la BPI pour les entrepreneurs. Une moitié rouge pour toute la partie immobilière, la Caisse des dépôts et consignations. Alors, BPI France va faire beaucoup de choses. Hein. D'abord, on va ouvrir une enveloppe de 1 milliard d'euros de prêts, qui sont des prêts longs, à 12 ans, avec 3 ans de différé de remboursement, et un taux d'intérêt inférieur à 3%. Pour les hôtels, les cafés, les restaurants et le secteur de la culture. Ça répond en partie aux arguments tout à l'heure de votre invité précédent.
Oui, j'en ai le tronc, patron de la SACEM. Oui.
Absolument. Voilà, donc ça c'est très important. L'événementiel, les théâtres privés...
Ça rentre dedans.
Ça rentre dedans. Bon, le prêt tourisme, il existait déjà. Simplement, on était parti pour en faire 80 millions. On va en faire 1 milliard. C'est unique, ça, on n'a jamais fait ça. Hein. Il n'y a jamais eu un plan de cette nature-là dans le tourisme français, jamais. Alors ensuite, on va mettre un minimum de 500 millions d'euros dans toutes les classes d'actifs. C'est-à-dire qu'on va aller accompagner les grosses entreprises de taille intermédiaire du tourisme, hein, avec des tickets parfois de 10, 20, 30 millions d'euros. À l'extrême inverse, on va aller accompagner les toutes petites avec des tickets de capital en obligation convertible de 200 000 euros. Et ça, on va en faire 300, 350, toujours distribués par nos agences.
Et les obligations convertibles, elles vont devenir quoi ensuite ?
Elles sont remboursées. D'accord. En fait, elles sont très rarement converties
au capital. Oui, c'est ça, vous avez des questions, sinon vous allez
les trouver. Remboursées. C'est-à-dire d'accord. que le capital, pour ces entreprises-là, le capital pur est devenu trop risqué. Ouais. Elles ont déjà des prêts. Donc on leur met des obligations convertibles.
Oui, bien, quasi-fonds propres, quoi.
Et des quasi-fonds propres, voilà, exactement. Donc ils ne pèsent pas sur leur ratio bilanciel pour l'obtention de prêts ultérieurs et leur notation Banque de France. Ça, on va en faire 300 à 350, distribués dans toutes nos agences, toujours pareil, extrêmement rapidement. Et d'ailleurs, le fonds s'appelle FAST. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que c'est du capital rapide, avec une documentation simplifiée, totalement standardisée. On ne va pas passer des heures et des heures et des semaines et des heures carrées à reconstruire des documentations avec des
Là, il n'y a pas besoin de banque, hein, on est bien d'accord.
Non, c'est nous.
C'est vous, d'accord.
Voilà. Et entre ces deux catégories, le tout petit et le gros, on a notre fonds tourisme qui a été largement redoté et qui va permettre de faire à peu près 100 tickets de 1 à 2 millions d'euros. Donc ça fait, vous voyez que ça va nous
dans
permettre...
Quoi
dans, encore une fois, les entreprises.
Mais le tourisme, sans ticket, ça va vite. Hein. Vous voyez, il y en a tellement que.
Oui, alors là, on est dans du capital classique. Donc, oui. On va se marier avec les entreprises en question. On sera à leur conseil d'administration. Donc, l'instruction prend tout de même un tout petit peu plus
de temps. Et vous allez choisir comment ? Non, mais je veux dire, c'est plutôt.
Comme on le fait toujours.
C'est dans l'hôtellerie, ça sera plutôt dans. Je sais pas. Hein.
Ça sera les entreprises du secteur du tourisme qui peuvent accueillir un actionnaire pour 10% du capital, pour 1 à 2 millions d'euros. Voilà, donc ça vous donne des ordres de valorisation des entreprises. Et c'est des entreprises qui valent entre 10 et 20 millions d'euros. Voilà. Et quand on fait la somme de tout ça, vous voyez qu'on est on est pas loin de 400 à 450 entreprises au capital desquelles nous allons rentrer, ce qui est considérable.
La question d'après, c'est... Est-ce que ça va monter encore plus ou pas ? Ou à partir de juillet où tout va repartir, vous espérez que non ?
Alors, on a là de quoi travailler et faire, et je vous souhaite une bonne santé. Ouais. au moins pour les 18 mois qui viennent, ça va de soi. Maintenant, j'ai envie de dire, mais je pense que les auditeurs le savent, hein, une valeur fondamentale de Bpifrance, c'est la vélocité. Voilà, donc le plan...
C'est l'essentiel, non ?
Voilà, et c'est pas fondamental. C'est pas le plan, mais... il a été topé jeudi dernier. Ce matin, les agences commercialisent. Voilà. Et donc, c'est fondamental. Et les auditeurs doivent savoir qu'ils peuvent venir nous voir.
Quand je disais qu'il fallait avoir des... Où est-ce que vous allez le mettre dans les tickets ? Je veux dire, est-ce que ce sera plutôt... Il y a tout ce qui est événementiel, il y a aussi tout ce qui concerne le tourisme. Oui. Vous voyez, il y a différents secteurs quand même. Donc le tourisme, c'est un énorme secteur.
Oui, c'est
donc,
ça.
Donc, est-ce que vous avez ciblé un peu plus ? Voilà, c'est ça, c'était ma question avant que je m'étrangle.
Oui, pardon. Alors, il se trouve que BPI France est déjà une grosse banque du tourisme. Mmh. C'est une vieille tradition de la banque, puisqu'à l'origine de l'origine de la banque, ça s'appelait le crédit hôtelier.
Oui.
Voilà, donc les gens connaissent le métier chez nous. Et donc, on couvre très large, hein, c'est-à-dire qu'on va, on finance par exemple massivement les campings, on finance le zoo de Beauval, on finance les parcs d'attractions, on a mis du capital dans une entreprise qui s'appelle Looping, qui fait des parcs. Mmh. Hein, on finance très largement le secteur des industries culturelles aussi, et la French Touch. Tout ça sera couvert par le prêt-tourisme.
D'accord, donc ça c'est vraiment un point important. C'est un plan qu'on pourrait mettre dans les industries culturelles, même si déjà ils sont un peu concernés par ce plan tourisme, oui. Vous venez de le souligner, Nicolas, oui. Dufourcq. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir
un plan
aussi d'une telle ampleur dans les industries ? 10 milliards d'après EY, hein, oui. De pertes en deux mois.
Oui, alors nous travaillons sur un plan pour la French Touch,
oui. Hein,
donc pour les industries culturelles, avec des composantes qui sont des composantes similaires, sur des montants qui ne sont pas du tout arrêtés. Hein. Il y a des gammes de produits, notamment financiers, d'ailleurs par l'Union européenne, qui permettent de financer avec des prêts longs les industries culturelles. Mais ce que je voudrais dire, c'est que encore une fois, le plan tel qu'il a été annoncé est déjà une sacrée poire pour la soif pour ces industries-là.
Ouais. Ouais, et en plus, vous avez compris, pour ceux que ça concerne, qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est à partir de ce matin. Donc oui. Allez-y, c'est l'occasion. Nicolas Dufourcq, il y a le système que vous avez décrit, en l'occurrence, en disant ben voilà, c'est des prêts... qui peut être transformé en obligation convertible, voire éventuellement, mais a priori non, en capital. C'est un modèle que vous pourriez, un schéma en tous les cas, qui sera celui utilisé pour l'aéronautique, le tourisme, l'automobile ?
Alors, nous travaillons effectivement sur deux plans verticaux importants. L'un sur l'automobile et l'autre sur l'aéronautique. L'automobile, c'est à peu près 200 sous-traitants de rang 2 et 3. L'aéronautique, c'est 400. Donc, il y a 600 entreprises qui vont probablement avoir besoin de concours. Alors, une partie importante d'entre
600.
Elles... 600. Voilà. 200 pour l'automobile, 400 pour l'aéronautique. Une grande partie d'entre elles ont eu du PGE. Hein. Bon, par ailleurs, une partie significative avait déjà de la trésorerie. Nous allons donc la semaine prochaine présenter le plan automobile. Je crois que c'est dans les souhaits du ministre de l'économie
oui,
et des finances
ce matin, oui, absolument.
De le présenter lundi. Mmh. Et nous travaillons également sur un plan aéronautique.
Travailler sur un plan, ça veut dire quoi concrètement ?
Dans les deux cas.
Parce qu'il y a déjà les PGE, qu'est-ce qu'il faut de plus ?
Eh bien, il faut des prêts beaucoup plus longs que le PGE. Il faut de l'accompagnement. J'ai pas dit que sur le plan tourisme, nous faisions 1500 missions d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on peut plus imaginer mettre du capital financier s'il n'y a pas de capital humain à côté. Hein, donc c'est du conseil.
Ça, c'est votre leitmotiv, hein, voilà,
Nicolas Dufour, toujours, quoi. Toujours. Donc il y a un gros plan d'accompagnement sur le tourisme. On est en train de créer deux écoles de plus, avec des promotions de 60 entreprises, pour les accompagner, et on va faire 450 missions de conseil. Ouais. Bon, dans le domaine de l'automobile et de l'aéronautique, la même chose. Hein, bah, donc ça sera du prêt, des fonds propres, de l'accompagnement.
Alors justement, la question c'est les prêts, éventuellement PGE, pas PGE, mais les PGE, comme vous dites, c'est chaque mois que ça se renégocie en fait, un PGE.
Le PGE, vous le prenez pour un an, à 0,25%, oui, mais... et dans un an, vous décidez si vous voulez aller sur 5 ans.
D'accord, ok, d'accord. Voilà. Non, mais parce que je pensais que l'obtention, il y avait un peu renégocié.
Maintenant, si vous n'avez pas saturé votre PGE, vous pouvez revenir demander une deuxième tranche de PGE jusqu'à ce que vous atteigniez votre droit, d'une certaine manière, qui est 3 mois de chiffre d'affaires.
Alors maintenant, la grande question qu'on se pose, et qui va peut-être nous amener au lac d'argent, ce fameux lac d'argent, le fonds, espèce de gros fonds souverain, hein, quelque part, qui est là pour investir. La transformation en capital, comment elle va se décider? Et vous voyez, on a un PGE, après on peut avoir des obligations convertibles, et puis après on peut transformer pas.
Il faut raisonner en couloir de nage différent. Hein. Donc il y a le PGE.
D'accord,
Sur un an, c'est de la trésorerie. Mmh. Si vous voulez aller sur 5 ans de plus, ça devient du financement. Bon, à côté de ça, vous avez du quasi-capital pour les petites entreprises qui sont particulièrement risquées. Donc, on met des obligations convertibles tout de suite. Et puis après, vous avez le capital. Le PGE, c'est du prêt-à-porter. Le capital, c'est de la haute couture. Et entre les deux, vous avez quelque chose d'intermédiaire.
Oui, mais par exemple, si je prends Air France KLM, d'accord?
Oui.
Grosse entreprise, hein, on est d'accord. Bon, là, il y a un prêt qui est fait par l'État. La question qui va se passer à la rentrée, là, donc ça se négocie déjà maintenant, c'est... Ensuite, est-ce qu'on rajoute du capital ou pas? Ça va être la même question pour Renault.
Ça, c'est une question qui est à poser à l'actionnaire, c'est-à-dire qui n'est pas BPI France, qui est l'agence de participation de l'État. Pour ce qui est de notre portefeuille à nous, on a une vingtaine d'entreprises cotées, multinationales françaises.
Oui, bien sûr.
Elles sont, pour l'essentiel d'entre elles, tout à fait liquides. Une partie a eu de très beaux PGE, par exemple CMA-CGM a eu 1 milliard d'euros de PGE, dont il n'est absolument pas prévu qu'ils soient convertis en capital, ni même en obligations convertibles. Ils rembourseront cette dette. Voilà. Bon. Et puis, donc je n'ai pas d'inquiétude particulière sur ces 20 entreprises qui ont des très beaux noms, comme ST Microélectronique.
Bah, si je vous cite Vallourec, vous êtes un peu plus inquiet, non?
Donc Vallourec, de toute façon, Vallourec,
ça fait. Non, mais vous me dites, il n'y a aucun problème.
Vallourec, ça fait des années qu'on est à la manœuvre, on avait prévu de faire une augmentation de capital de plusieurs centaines de millions d'euros. Bon, Vallourec, on sera à leur côté. Hein. Mais si vous prenez Constellium qui vient d'obtenir son PGE, vous prenez Nexans également, vous prenez PSA, vous prenez évidemment Orange, vous prenez Eutelsat, toutes ces entreprises sont secure aujourd'hui, elles sont plutôt du bon côté, du côté illuminé de la montagne, si je puis dire.
Donc là, il n'est pas question dans les entreprises que vous avez citées, pour être très clair, Nicolas Dufour, qu'il n'est pas question d'augmentation de capital
De
recapitalisation.
Non.
Non.
On n'est pas, pour le portefeuille coté de BPI France, dans un contexte de recapitalisation d'urgence. C'est important qu'effectivement on le sache. Hein.
C'est sacrément important.
En revanche, dans le portefeuille industriel, privé, non coté, des entreprises qui sont des entreprises de taille significative, nous avons prévu un volant global de réinvestissement de l'ordre de 350 millions d'euros sur une dizaine d'entreprises. Une quinzaine d'entreprises.
Là aussi, quels sont les secteurs, si vous essayez déjà, vous avez quelques semaines de recul, enfin même pas quelques jours de recul, quels sont qu'est-ce que vous voyez, quels sont les secteurs les plus touchés? Bon, je laisse le tourisme, hôtellerie à part, bien sûr.
Automobile, aéronautique et tourisme. C'est les trois premiers plans.
Oui, c'est les trois premiers plans.
Voilà,
C'est ce que vous avez dans votre portefeuille.
Et vous pourriez, j'en ai la raison, rajouter les industries culturelles. Tout le monde de l'économie présentielle et de l'événementiel. C'est clair.
Est-ce que vous voyez beaucoup de... On parlait tout à l'heure peut-être de faillite ou de dossiers un peu très mal engagés. Mais il y a aussi la question de réduction d'effectifs, de restructuration, de cession. On reçoit ici beaucoup de chefs d'entreprise qui nous disent on va rester en chômage partiel et puis après, ça va être peut-être un peu compliqué pour certains. Est-ce que vous voyez des dossiers sociaux arriver?
Alors, pas encore. Pour être clair, on voit pas non plus encore la sinistralité de nos prêts exploser, pas du tout, tout simplement parce que c'est trop tôt. On verra ça à l'automne. Hein. Mais entre aujourd'hui et l'automne, il y a une séquence qui est d'une sensibilité extrême et qui a une composante psychologique fondamentale. il faut vraiment se souvenir que j'espère qu'on peut dire, c'était une crise sanitaire. Et que l'économie rouvre, et qu'il faut qu'elle rouvre comme une fusée décolle verticalement. Si on décide de décoller lentement et mollement, c'est très clair que à l'automne, il y aura du chômage et des faillites. Voilà. Et donc, ce que je dis aux entrepreneurs, c'est on repart au business à l'ancienne, avec les crocs. On va vendre. On fait du commerce, on fait du porte-à-porte, on place son produit.
C'est un triptyque qui est très compliqué. C'est la crise sanitaire, crise économique, crise sociale. Et on voit bien qu'il y a l'imbrication, les points de jointure sont très délicats.
C'est très délicat. Il y a des canaux de transmission vers la crise généralisée, c'est certain. Mais contre ça, il y a un vent contraire qui s'appelle l'énergie de l'entrepreneur. On a eu le moment des soignants. Maintenant, c'est le moment des réveillants. La société française, on l'a
chloroformée. Oui, mais quand vous êtes chez l'entreprise, d'abord, il y en a beaucoup qui ne sont toujours pas au boulot, hein, qui sont en télétravail. Télétravail, c'est très bien.
C'est du travail,
c'est c'est du travail, mais ce n'est pas la même productivité. Enfin, ils vous le disent tous un peu en off, même si ça arrange beaucoup de chez l'entreprise.
Alors, moi, je dis l'inverse. Je dis que le télétravail a créé une productivité chez BPI France absolument
impressionnante. Ah bon, voilà, comme quoi.
Je ne suis pas sûr qu'on aurait fait tout ce qu'on a fait si on avait été on-site. Vraiment, hein. Voilà. Mais donc moi, je lance un appel aux entrepreneurs pour que ils aient conscience. Moi, j'ai conscience de leurs difficultés et qu'ils aient conscience de leur mission, d'une certaine manière, dans la société française d'aujourd'hui, qui est de la sortir du chloroforme.
Oui. Ça, c'est un point important, parce que surtout, certains commencent à dire que le pire est derrière nous, que ce n'est pas forcément la crise de 1929, pour reprendre les propos du patron de la Fed, en l'occurrence. Donc,
ça peut ne pas l'être.
Ça peut ne pas l'être. Ça et il y a le composante. Ouais.
Bien sûr. De toute façon, il y a une énergie vitale dans la société française incroyable. Et il suffisait de voir les rues de Paris hier. Ça va repartir très, très vite. Hein. Ouais. Les gens vont revivre. Et alors, si en plus, comme en Chine, il y a une espèce de consommation dite de vengeance, c'est-à-dire je vais consommer parce qu'on m'a interdit, j'ai été emprisonné, je vis, tout ça peut faire du beau business. Hein.
Est-ce que vous voyez des prédateurs étrangers rôder? Parce qu'en tous les cas, on a des alertes, hein, ici ou là, que ça vienne de la DGSI, de Bercy, qui disent attention, et c'est pas pour rien. Du reste, que Bruno Le Maire, il a remonté le seuil à 3%, enfin, abaissé en l'occurrence, le seuil à 3% de déclaration d'intention.
Le temps de la naïveté est évidemment passé. Hein, et donc il faut être constamment alerte. Je pense qu'on commence à avoir des dispositifs d'alerte qui sont efficaces. Le sujet, c'est la technologie.
Oui.
Voilà.
Les biotech technologies.
Ouais. Oui. Tout ce qui concerne la tech, la deep tech, tout ce qui concerne le semi-conducteur.
Et vous voyez des dossiers.
La santé.
Vous avez des dossiers à BPI France où effectivement il y a un risque.
Ah oui, bien sûr.
Oui. Non, mais.
Ah oui, bien sûr. Non, on en a même beaucoup. Beaucoup de dossiers sur lesquels on sait très bien qu'on va devoir mettre du capital pour que cette entreprise ou cette partie de cette entreprise ne puisse pas partir à l'étranger.
Ouais.
Bien sûr.
Oui, eh ben, on voit quand même qu'il y a des choses à faire. Merci beaucoup Nicolas Dufour, parce qu'il y avait une touche assez optimiste dans vos propos, donc ça fait du bien. 74 milliards d'euros en tous les cas de PGE. Merci d'avoir été avec nous. Votre monde d'après, il sera comment ?
Le monde d'après.
Ouais.
Je rêve d'une révolution très puissante de la mobilité quand même. Hein. C'est ça qu'on a appris, je trouve, avec cette crise. Peut-être un tout petit peu moins de mobilité, électrification de la mobilité, digitalisation. Mmh. C'est ça qu'il faut absolument pousser maintenant.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'orage. Dans un instant, bien sûr, vous retrouvez les experts. Nous, on se retrouve demain matin. Je recevrai à 8h15 Alain Dina, le patron de Nexity, vous savez, dans le bras droit, le numéro 2. Et donc, il est mort du Covid. Et c'est la première intervention d'Alain Dina. Puis, on parlera du secteur de l'immobilier aussi touché. À demain. Bonne journée.